Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Une heure en France jusqu'à 14h. Bonjour à vous Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Ternier, on va faire un Tour de France comme tous les jours, mais on va commencer avec le Tour de France 2020. Il a été officiellement dévoilé il y a quelques minutes. Nous allons au Palais des Congrès à Paris. France Bleu est la radio officielle du Tour.
On va passer par Auxerre aussi, où des animaux imaginaires sont à l'honneur avec l'expo Yeti, Yetu. Nous serons également à Lille avec l'association Parlier et des ateliers socio-esthétiques pour redonner confiance aux femmes victimes d'agressions. Et puis on va découvrir un loto bien particulier qui se déroule dans un champ avec des vaches.
Restez avec nous jusqu'au bout, vous n'allez pas être déçus.
Et on commence avec les infos du jour et Simon de Faucompré.
Bonjour Simon.
Bonjour à tous.
On est passé de l'amusement à l'horreur hier soir dans une fête foraine.
Un accident de manège a fait un mort et un blessé grave à Firminy, près de Saint-Étienne. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires, Yves Renaud.
Quatre personnes ont effectivement été placées en garde à vue et parmi elles les propriétaires et les employés chargés de manipuler les manèges hier soir. David Charmatz, le procureur de la République, dans son communiqué ce matin, explique que la balancelle où se trouvaient les deux victimes a heurté un autre manège situé à proximité. Et se repose l'inévitable question de la proximité des deux attractions. On sait que l'espace disponible pour l'installation des manèges est très contraint sur cette zone de Firminy. Il faudra sans doute aussi analyser l'influence de la météo avec des vents relativement violents hier qui aurait pu déporter la trajectoire des engins. Le procureur de la République qui s'est rendu sur place a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires. Enquête confiée au service de la Sûreté départementale de la Loire. Il a également mandaté un expert qui était sur place dès ce matin pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Du côté des victimes, on déplore donc le décès d'une jeune femme de 23 ans. L'autre victime, 20 ans, est dans un état très grave au centre hospitalier de Saint-Étienne. Les deux victimes ont été éjectées de leur siège au moment de l'accident.
Récit d'Yves Renaud pour France Bleu.
De violents orages et même une mini-tornade ont fait 5 blessés ce matin dans le Rhône. 150 maisons ont été dégradées dans la commune de Arles.
Et un gymnase a été ouvert pour accueillir 70 habitants sinistrés. Retrouvez des images sur francebleu.fr.
Et c'est bien sur la commune de Arles et non dans le Rhône, comme on l'a dit.
Absolument. 20 jours de débat, place au vote du projet de loi bioéthique aujourd'hui. Scrutin explosif prévu en début de soirée. Ce texte divise les députés et notamment sa mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Soumise, elle aussi, au vote des députés aujourd'hui. Une mesure proposée par la droite de l'hémicycle sur les violences faites aux femmes.
Elle prévoit notamment un bracelet électronique pour maintenir les conjoints violents à distance. Ça existe déjà, comme en Espagne. L'exécutif français veut le mettre en place dès le début de l'année prochaine.
Ouais, tout ça en plein Grenelle contre les violences conjugales. Les associations recensent 121 féminicides en 2019. C'est autant que sur toute l'année 2018. Procès tendu et à huis clos ouvert ce matin à Évry. 13 jeunes sont accusés d'avoir gravement brûlé des policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne il y a 3 ans. En lançant des cocktails Molotov sur leur voiture, les audiences font durer 2 mois. C'était il y a 6 mois, jour pour jour, la cathédrale Notre-Dame de Paris était ravagée par les flammes et Emmanuel Macron annonçait à peine l'incendie maîtrisé un délai de 5 ans pour une remise en état de l'édifice. Sur France Info ce matin, le délégué général de la Fondation Notre-Dame, Christophe Rousselot, a estimé qu'une partie de la cathédrale pourrait même rouvrir avant ces 5 ans, mais une partie seulement parce qu'il reste du travail.
Si les conditions de sécurité le permettent, et ce sera aux autorités bien sûr de le dire, de le confirmer, on pourra pénétrer dans une partie de la cathédrale qui serait personne ne prendrait de risque. C'est pas la seule cathédrale de France qui est brûlée, malheureusement. En 72, à Nantes, ça a brûlé, et les Nantais ont pu récupérer une partie de la cathédrale quelques années après. Mais la totalité, c'est venu 10 ans plus tard, voyez. Vous savez, ces travaux de consolidation, c'est extraordinairement complexe, voyez, comme chantier. Hein. C'est tout sauf une maison avec 4 murs, ça tout le monde l'a compris. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, dans le silence, à refaire des plans de la cathédrale. Si une partie des tubes de l'échafaudage s'effondrent, ils entraîneraient avec eux une partie de l'édifice. Et c'est encore une fois pas jouer à se faire peur. Le chœur et le transept ne sont pas du tout encore pour le moment entièrement sécurisés.
Christophe Rousselot avec Agathe Mahuet sur France Info.
En 6 mois, les promesses de dons ont atteint plus de 920 millions d'euros selon le ministère de la Culture. 100 millions ont déjà été versés.
Les pompiers attendus par milliers dans 1 heure à Paris. Certains viendront d'Isère, du Limousin ou de Lyon pour une manifestation nationale à l'appel de 9 syndicats. Ils veulent être mieux payés, les pompiers subir moins d'agressions et pouvoir compter sur une retraite. Dans le cortège, il y aura aussi des urgentistes et des médecins. Ça y est, Denis, c'est officiel. On connaît le parcours du Tour de France édition 2020. Il a été dévoilé ce midi. Vous l'avez peut-être vécu en direct sur francebleu.fr. Oui, nous sommes toujours radio officielle de la Grande Boucle.
Et on peut espérer une édition 2020 aussi intéressante que celle de 2019 avec les Pinot, Alaphilippe ou Bernal, le vainqueur, avec notamment une arrivée inédite au-dessus de Méribel. Nous allons sur la première ligne de départ ce midi, le Palais des Congrès à Paris, là où le tracé a été officialisé tout à l'heure. C'est dans 2 minutes.
Et en attendant, rendez-vous sur francebleu.fr pour toutes les infos sur ce Tour 2020. La campagne du vaccin contre la grippe est lancée du nouveau cette année. Les femmes enceintes, seniors et malades chroniques pourront directement se faire vacciner en pharmacie.
Une mesure testée dans 4 régions ces 2 dernières années. Elle a permis d'augmenter de 10% le nombre de patients vaccinés.
La saison des grippes et la saison des impôts aussi. Oh. Que du bonheur l'automne. Dernier jour pour payer sa taxe foncière, sauf si vous le faites sur Internet. Dans ce cas, vous avez jusqu'à dimanche minuit. La météo pour ce mardi 15 octobre, ça reste bien perturbé. Les Alpes-Maritimes sont encore en vigilance orange à la pluie, aux inondations et aux orages. Encore des averses à l'est donc, c'est plus contrasté à l'arrière. Et le beau temps survit des Pyrénées à la Corse malgré des rafales à 70 km/h. Le mercure, lui, a globalement chuté, Denis.
11 degrés à Rodez, 13 à Dijon et à Caen, 14 à Brest, 15 à Poitiers et Arras, 14 à Maubeuge où nous allons faire un loto dans la région tout à l'heure, 16 à Marmande, 18 à Montpellier, 24 à Calvi. Merci à vous, Simon de Faucompret.
Merci, et quel loto.
Place au Tour de France dans un instant avec France Bleu, la radio partenaire de la Grande Boucle.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Marine Chailloux.
Une 40 km de ralentissement et cet accident qui vient de survenir à Bougival en sortant de la 86 pour entrer sur la départementale 913. Une voiture et un bus sont impliqués. La voie de droite est neutralisée. Vous freinez encore sinon sur la 6B une 10 minutes de Vissou jusqu'au périphérique. Ensuite, c'est chargé sur le périph' extérieur. 12 minutes entre Porte d'Orléans et Porte d'Italie. Puis une 10 minutes d'Italie à la Porte de Bercy. Dans l'autre sens, périph' intérieur. Vous mettez encore 12 minutes de la Porte Maillot à la Porte de la Chapelle. Les transports en commun, la ligne 9 du métro est toujours interrompue entre Porte de Saint-Cloud et Trocadéro.
Le Tour de France 2020 partira de Nice le 27 juin, arrivé à Paris le 19 juillet. On connaît depuis quelques minutes le tracé officiel dévoilé au Palais des Congrès à Paris, où nous sommes avec le service des sports de Radio France. Bonjour Fabrice Rigobert.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors est-ce que sur le papier on peut imaginer une course aussi passionnante que celle de cette année en 2019 ?
Oui, sur le papier, les organisateurs ont fait les choses de manière à ce que cela puisse se passer. Alors, on n'espère pas comme à Tignes, où l'étape avait été interrompue par la météo, oui. Mais partout ailleurs, il y a des pentraides. Hein, c'est un petit peu le leitmotiv des pentraides pour les coureurs. Il ne va pas se passer 2 jours sans qu'il y ait des cols à escalader. Il y en aura 29 durant les 3 semaines. 5 massifs montagneux de l'Hexagone, donc, visité pour certains 2 fois, notamment dans le massif central. Ce sera le cas des Alpes. On a 4000 mètres de dénivelé dès la deuxième étape autour de Nice avec le col de la Colmiane, Turini. Ensuite, on va prendre la direction des Alpes du Sud, mais vers Sisteron. Il y aura Gap, les Hautes-Alpes, avec une arrivée au sommet à Orcières-sur-Merlette. Et ensuite, on va dessiner un arc en direction des Pyrénées en passant par Montégoal, aux confins des Cévennes, au carrefour du Gard notamment, donc dans le massif central. Ensuite, 2 étapes dans les Pyrénées, une journée de repos qui sera magnifique hein, autour de La Rochelle où le Tour n'était plus allé depuis 25 ans, avec une étape le lendemain entre Île-d'Oléron, Île-de-Ré. On va aller à Poitiers. À Saran, ce sera l'étape Jacques Chirac, une étape qui avait été décidée en avril dernier. Le président de la République était encore en vie. Ensuite, il y aura l'étape des volcans d'Auvergne vers Puy-Marie, Clermont, Lyon, retour du côté des Alpes au nord avec le sud du massif du Jura avec une arrivée au sommet du Grand Colombier. Et ensuite, il y aura 3 étapes dans les Alpes avec la Tour du Pin, Villard-de-Lans, Grenoble Méribel-le-Col-de-la-Loz, La Roche-sur-Foron, et on terminera avec une magnifique étape contre la montre, 35 km, la veille des Champs-Élysées. Là, ce sera dans les Vosges avec la planche des Belles-Filles.
Alors, vous avez évoqué le col de la Loz, c'est un peu la surprise cette année, hein, c'est arrivé au-dessus de la station de Méribel sur une route qui n'est pas empruntée par les voitures habituellement.
Non, cette route a été goudronnée cette année, inaugurée en juillet, destinée aux cyclotouristes, donc aux cyclistes uniquement et pas au Tour de France, pour relier Méribel à Courchevel. On a donc 14 km d'ascension, plutôt une ascension régulière jusqu'à Méribel, où le Tour est arrivé pour la dernière fois en 1973, victoire de TFD. Et ensuite, eh bien, on a 7 km avec des pentes vraiment très irrégulières, des passages à 15-20%. C'est un ancien chemin d'entretien des remontées mécaniques, donc pas du tout destiné à la pratique du cyclisme. Et au sommet, après ces 7 km très durs où il n'y a quasiment plus de végétation, on a une vue magnifique sur les sommets environnants de la Vanoise, avec le Mont Blanc notamment.
On peut vivre cette montée sur francebleu.fr. C'est très impressionnant, cette route qui passe sous les remontées mécaniques. Il y a beaucoup de coureurs autour de vous, Fabrice Rigobert. Est-ce que vous avez vu des rictus ou des sourires sur leur visage quand ils découvraient le parcours, et notamment cette montagne qui est très présente?
Alors déjà, on va signaler les ovations pour les coureurs français. Thibaut Pinot qui avait dû abandonner malheureusement sur le dernier Tour de France. Ovation pour Pierre Roland, pour Julien Alaphilippe, 14 jours en jaune, ou encore pour Romain Bardet, maillot à pois sur le Tour. Et les rictus, oui, on a vu un rictus, celui du vainqueur sortant du Tour, Egan Bernal, le jeune Colombien, quand il a vu que ça se terminerait par un contre-la-montre sur les pentes de la planche des Belles-Filles au départ de Lure. Là, on sera chez Thibaut Pinot, Lure, où est né Thibaut Pinot, la planche des Belles-Filles, terrain entraînement du coureur de la Française des Jeux. Et ensuite, on a vu également Julien Alaphilippe un petit peu stressé, le sourire, mais on l'a vu écarquiller les yeux lorsque le parcours découvrait toutes ces difficultés au programme. 29 cols à escalader, c'est autant que l'année dernière, un de moins, mais autant si on enlève la montée de Tignes qui n'avait pu être empruntée à cause de la météo.
On retiendra ces sourires stressés que vous avez décrits à l'instant. Ça y est, on est dans le Tour dès le mois d'octobre. Merci Fabrice Rigobert du service des sports de Radio France depuis le Palais des Congrès de Paris. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Et puis bravo à francebleu.fr qui a 19 sur 20 avec son parcours probable en ligne depuis hier soir. C'était tout bon à un chouïa près dans les Alpes.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier.
Et après le Tour de France, aujourd'hui, on va passer par le Muséum d'Auxerre qui nous propose une exposition sur des animaux énigmatiques intitulée Yeti, Yetu.
Vous pouvez répéter?
Yeti, Yetu.
Est-ce que la licorne existe?
Mais bien sûr.
Est-ce que le monstre du Loch Ness existe?
Il paraît.
Est-ce que le zèbre, girafe, okapi existe?
Ça, c'est sûr.
Ah oui, ça, c'est vrai.
Ensuite, nous allons nous intéresser à un atelier de socio-esthétique pour des femmes victimes de violences sexuelles mis en place à Lille.
Par l'association Parler, il s'agit de mettre en confiance des femmes pour aider à libérer la parole.
Et on va terminer avec une partie de l'auto champêtre, on vous expliquera les règles.
Alors, en préambule, ça se passe dans un champ, et dans ce champ, il y a des vaches.
Une heure en France, on va jouer ensemble aussi avec de très beaux cadeaux. C'est aussi de la musique, évidemment, jusqu'à 14h. Et on attaque avec PhD, I Won't Let You Down, sur France Bleu. I won't let sur France Bleu, I Won't Let You Down. Je vous ai réveillé, Denis?
Mais non, mais vous parlez
c'est
fort.
C'est la PhD.
Vous parlez fort, vous m'avez fait peur.
Bah, réglez le volume de votre casque, faites comme ça, 13h17 sur France Bleu.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Allez, on s'arrête maintenant au Muséum d'Auxerre qui propose l'exposition gratuite Yeti, Yetu, et c'est jusqu'au 19 janvier.
Yeti, Yetu est consacré aux animaux cryptozoologiques, c'est-à-dire aux espèces dont l'existence n'est pas prouvée. Yeti, Yetu.
Et normalement, on va y croiser des licornes, le Loch Ness, le Kraken, mais aussi des ornithorynques et des okapis. On fait la visite avec la conservatrice du muséum. Bonjour Sophie Rajaoufera.
Bonjour.
Il y a du vrai et du faux dans cette expo, et pas forcément là où on l'attend, non?
Oui, c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est que le monde vivant est tellement surprenant que les légendes que les humains ont pu inventer parfois sont un peu pâles à côté de la réalité.
Alors, l'expo des animaux énigmatiques, ça ne dit pas s'ils existaient ou pas, vous ne l'indiquez pas, c'est le visiteur qui doit deviner ou pas?
Voilà, on essaie justement d'interpeller un peu le visiteur, de le tester en lui demandant de voir si certaines espèces existent ou pas. Est-ce que l'ornithorynque existe ou pas? Est-ce que les rhinogrades existent ou pas? Ça me remet en cause quelques idées reçues. Et puis quand même, en fin d'exposition, on donne quelques précisions. On explique que certaines espèces énigmatiques n'existent probablement pas, mais que pour d'autres, peut-être qu'il reste un doute.
Ah, comme lesquelles? On veut des exemples.
Alors, par exemple, il y a un humanoïde qui aurait été vu dans les forêts d'Indonésie, qu'on appelle l'orang pendek. C'est un peu l'histoire du Yeti dans une zone géographique différente.
Ouais.
Et là, les recherches sur le terrain de chercheurs, pour l'instant, n'ont pas permis de dire que les indices étaient des faux. Et au contraire, peut-être qu'on peut imaginer qu'il y a une espèce de grand singe, d'orang-outan ou autre, qui n'est pas encore connu des humains, qui vivrait dans cette zone-là.
On a mis une photo sur francebleu.fr, on ne sait pas ce que c'est. On va essayer de vous le décrire, vous allez essayer de deviner de quoi on parle. Ça ressemble à un rat, et à la place du nez, on dirait un coquillage ou alors un bonbon comme un berlingot.
Ah oui, ça doit être un représentant du groupe des rhinogrades dont on parle dans l'exposition, peut-être.
Et il existe ou pas celui-ci?
Allez, il faut venir voir l'expo pour le
savoir. Vous avez raison. Ce qui est étonnant quand on s'intéresse à cette exposition au Muséum d'Auxerre, c'est qu'on se rend compte que personne aujourd'hui sur la planète ne peut dire précisément combien il existe d'espèces.
Non. Alors déjà, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est une espèce. Les biologistes ne sont pas tous d'accord. Il faut savoir ce qu'on compte. Est-ce qu'on va jusqu'à compter les virus, par exemple? Parce qu'on a découvert que la quantité de virus différents dans une seule goutte d'eau de mer ou dans un centimètre cube d'air en altitude est énorme. Donc si on doit compter aussi les virus, on vient vers des chiffres astronomiques. Et on estime actuellement, les chercheurs parlent de 3, 10, peut-être plus millions d'espèces à décrire. Donc il y a un énorme travail d'inventaire à poursuivre.
Mais la licorne avec sa corne, ça existe?
Évidemment.
Alors, il existe un animal qui porte cette espèce de corne décrite au Moyen-Âge, mais il ne ressemble pas à un cheval. C'est le narval. Et en fait, il a une grande. Les mâles de narval ont une très longue dent torsadée qui, quand elle était rapportée par les voyageurs en Europe centrale au Moyen-Âge, a donné naissance à l'histoire de la licorne.
En revanche, l'animal qui est mi-zèbre, mi-girafe, et qui s'appelle okapi, et qu'on trouve au Congo, existe réellement, même s'il n'est pas sur toute la planète.
Oui, l'okapi, c'est l'exemple typique d'une espèce qu'au départ, on a écartée en disant ce que nous racontent les habitants de la forêt, ce sont des racontars, cette espèce ne peut pas exister. Et puis, un chercheur un peu plus curieux que les autres est allé sur le terrain, a cherché au début du XXe siècle et a pu montrer que, effectivement, ce mammifère était une espèce pas encore connue de la science. Et c'est l'okapi, un cousin de la girafe.
Voilà, et la radio des Nations Unies au Congo s'appelle Radio Okapi.
Alors, on suit la trace des animaux énigmatiques à travers les légendes qui les entourent, là aussi c'est intéressant. Le kraken, les loups-garous, le dahu, on voit qu'à chaque fois il y a tout un contexte, il y a des histoires à raconter autour de ces animaux.
Oui, ce qu'on a surtout pas voulu faire dans l'expo, c'est l'écueil quelquefois, c'est de dire nos prédécesseurs ont raconté n'importe quoi, ils n'avaient aucun sens critique, pas du tout. Si ces histoires ont pu naître et se développer, c'est qu'elles font écho à des choses dans l'imaginaire humain, dans le fonctionnement des sociétés. Peut-être qu'on a besoin d'inventer des histoires de licornes et de loups-garous pour dompter nos peurs ou apprivoiser nos questions, voilà.
Je peux répéter le nom de l'expo ?
Oui, bien sûr, allez-y.
Yeti, y es-tu ? Et dans Lyon, il y a des créatures étranges ?
Alors dans Lyon, il y a, comme dans beaucoup d'endroits, il y aurait une vouivre dans une fontaine. Et puis on parle de darus, ce sont des animaux qui ont deux pattes plus courtes que les deux autres, si ça vous évoque quelque chose.
Darus, vous avez dit.
Bargue, voilà, qui est un cousin, a priori, dans les montagnes des Alpes. Et puis, on a pu, le muséum, avant-hier, pour la journée des fossiles, a montré un fossile exceptionnel, puisqu'on est en mesure désormais de dire que cette asymétrie des pattes, qu'on pensait tout à fait moderne chez les dahus modernes, existait déjà au Jurassique, chez une espèce du chablisien.
Sophie Rajao-Ferra, du coup, tous les milieux sont représentés. Il y a des animaux terrestres, d'autres qu'on va trouver dans la mer ou dans le ciel, dans l'exposition.
L'imaginaire humain a peuplé à peu près tous les milieux, donc ça c'est assez étonnant. Alors on parle du Yeti dans les hauteurs de l'Himalaya, on peut parler du Kraken dans les grands fonds océaniques.
Le Kraken, c'est cette espèce d'énorme pieuvre, enfin de pieuvre géante qui attaquait les navires.
Voilà, c'est ça, on peut avoir l'image de la version ancienne de 20 milieux sous les mers filmée en noir et blanc avec cette espèce d'énorme pieuvre qui fait couler un bateau. Mmh. Longtemps on a cru que les marins racontaient n'importe quoi à nouveau, comme pour les sirènes, etc. Sauf que vraiment, là, il existe un calamar géant qui peut mesurer plus de 15 mètres avec ses tentacules et qui a peut-être donné naissance à la légende du Kraken.
Vous nous faites un petit peu peur, pour ne rien vous cacher. J'ai pas bien compris, le Daru, son cousin dans les Alpes, c'est le Dahu ?
C'est le Dahu, c'est
ah,
ça.
Ah, c'est ça, d'accord.
Oui, on connaît toujours le Dahu montagnard, mais a priori, il en existe dans d'autres régions de plaine.
Très bien.
Du coup, vous, en tant que conservatrice du muséum, dites-nous, à quel animal vous croyez qui serait un peu légendaire ? Lequel vous êtes dit, j'ai un vrai gros doute ?
Ah, c'est cet orang-outan dont je vous parlais tout à l'heure, cette espèce d'homme sauvage ou de grand singe dans les forêts d'Indonésie. Celui-ci me semble assez plausible. À suivre.
Affaire à suivre. On a vraiment envie de visiter cette exposition au Muséum de Serres. En plus, c'est gratuit. Profitez-en vraiment.
Et l'expo s'appelle comment ?
Yeti Yetu. C'est jusqu'au 19 janvier. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Sophie Rajao-Ferra.
Merci beaucoup.
Très belle journée. Et attention quand même, on ne sait jamais. À bientôt. Merci. Au revoir. Et nous allons jouer, comme depuis le début de la semaine, pour le DVD des Bedins, de leur spectacle Grandeur Nature. Alors dites-nous, quel est le surnom du monstre du Loch Ness qui vit en Écosse, comme tout le monde le sait ? Pas de proposition, vous nous appelez au 0810 055 056.
Frédéric, y es-tu ?
A priori. Alors, ce petit surnom du Loch Ness, vous nous appelez, hein, vous nous donnez la bonne réponse et puis vous restez avec nous. On va s'inviter dans quelques minutes dans un atelier socio-esthétique à Lille. Et puis à 13h45, on va participer à un loto un peu particulier.
À votre bon cœur, tout le monde, les gens. À votre bon temps, évidemment. Ce soir, vous pouvez compter sur nous. On sera en retard, mais après tout, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Wow, 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 ce ne sont pas vos affaires. Non, 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 nous aussi, on a une vie. La, 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 les filles, la bière et les amis. À votre bon cœur, tout le monde, les gens. À votre bon temps, bien évidemment. Avec nous, on va commencer. Et c'est maintenant qu'il faut tout lâcher. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Wow, 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 ce ne sont pas vos affaires. Non, 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 nous aussi, on a une vie. La, 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 les filles, la bière et les amis.
Love. les amis.
Apparemment, c'est important, les amis, pour trois cafés gourmands. La Corrèze en cathéter avec leur dernier titre qui s'appelle « À nous ». Philippe, bonjour, bienvenue.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, à Bignoux précisément, Philippe.
Tout à fait.
Très bien, et que faites-vous en ce mardi ?
En ce mardi, je viens de faire une balade avec mon chien en forêt, parce que le soleil est de retour.
Vous n'avez pas rencontré une créature étrange en forêt ?
Non, pas du tout.
Bon, tant mieux.
Quelques cerfs par moment, mais bon.
ça va. Ils sont homologués normalement, ceux-là.
Voilà, c'est ça, oui.
C'est quand même un peu inquiétant, cette exposition au Muséum d'Auxerre, non ?
Oui. Oh, c'est plutôt sympa.
C'est plutôt rigolo, ouais, vous avez raison. Vous ne croyez pas aux licornes non plus, vous, Philippe ?
Non, pas du tout.
Ni aux darus, ni aux dahus.
Ni aux dahus.
Philippe, on joue. Vous croyez aux baudins, j'espère, parce que c'est votre cadeau.
Tout à fait. Ils ne sont pas très très loin de chez moi, en plus.
Ah, parfait.
En Touraine.
Exactement. Philippe, le surnom du monstre du Loch Ness, hein, qui vit en Écosse, comme tout le monde le sait, c'est quoi son petit surnom ?
C'est Nessie.
Mais oui, c'est Nessie. Ça. C'est Nessie. On ne l'a pas encore vu, hein, pour de vrai non plus, Nessie. Hein.
Mais oui. Il y a bien eu des photos, mais plutôt truqué, quoi.
Ah, on ne sait pas. C'est comme les extraterrestres. On n'a pas de preuves, mais certains les ont vus. Bon.
Ne cassez pas le mythe, Philippe.
D'accord.
Philippe, c'est bien réel. Encore une fois, le DVD des Baudins, on vous l'envoie et on vous fait plein de bises par la même occasion.
Ben, je vous remercie et je vous fais la même chose.
À bientôt, Philippe. Très bon mardi à vous. Merci.
Bonne après-midi.
À bientôt. Au revoir, Philippe.
France Bleu. Vous avez une nouvelle invitation.
Rejoignez la famille France Bleu sur Facebook.
Pour commenter.
Pour jouer.
Pour aimer.
Pour partager.
Déjà plus d'un million de fans. Il ne manque plus que vous. France Bleu vous attend sur sa page Facebook. Soyons bien ensemble.
Bien ensemble.
France Bleu aime le cinéma. Fahim et son père ont fui leur pays natal.
Qu'est-ce qu'il veut, lui ?
Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l'un des meilleurs entraîneurs d'échecs de France.
I want to be champion of the world.
C'est le début d'une incroyable histoire vraie. Fahim, un film de Pierre-François Martin Laval, avec Gérard Depardieu et Isabelle Nanty, au cinéma le 16 octobre.
Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde.
La bande-annonce sur francebleu.fr.
C'est parti pour le script Direct Assurance. Alors, la publicité Direct Assurance montre un conseiller qui prend un appel pendant qu'il se fait attaquer par un monstre. Non, il se fait emporter par une tornade. Pas terrible. Bon, eh bien, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que nos conseillers font toujours tout leur possible pour vous aider, et c'est pour ça que Direct Assurance est élu service client de l'année 2020. Rendez-vous sur directassurance.fr, le slogan « On gagne toujours à être direct » et le jingle. Ta-ta-ta-da-da. Catégorie assurance de biens, études BVA Group, visio OCI, mai à juillet 2019, plus d'infos sur escda.fr.
francebleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Marine Chailloux.
L'accident à Bougival en sortant de la 86 sur la départementale 913 a été dégagé. Attention, il y a un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est sur la 86 extérieure, il circule au niveau de la Courneuve. Et puis, vous freinez encore un petit peu sur la 6B vers Paris. Toujours du monde ensuite sur le périph' extérieur. 12 minutes entre Porte d'Orléans et Porte d'Italie, puis 5 minutes d'Italie à la Porte de Bercy. Dans l'autre sens, vous mettez encore 12 minutes de la Porte Maillot à la Porte de la Chapelle. Et enfin, les transports en commun, la ligne 9 est toujours interrompue. Donc, métro entre Porte de Saint-Cloud et Trocadéro à cause d'un accident grave. Deux personnes reprises autour de 14h15.
Même si c'est pas tout rose.
un signe, un seul mot de toi. Je vole en éclat. Ah, ah, ah. Avant toi, j'ignorais tout ça. Et tu n'en savais pas plus que moi. Toi, mon amour, toi qui as le cœur en lourd.
Mais évidemment qu'on l'aime toujours, Marc Lavoine. Il revient avec un nouvel album et surtout toute une série de concerts à travers la France.
Une heure en France. Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
C'est une initiative de l'association Parler, une association qui accompagne les femmes victimes de violences sexuelles. Et cette association lance à Lille un atelier de socio-esthétique pour aider les femmes à reprendre confiance en elles.
Ouais, l'association travaille avec deux socio-esthéticiennes, un coiffeur, une coiffeuse ainsi qu'une photographe. On va voir comment sont conçus ces ateliers.
C'est celle qui a écrit le livre Parler pour en finir avec la loi du silence chez Flammarion et a créé l'association du même nom qui est avec nous. Bonjour Sandrine Rousseau.
Bonjour.
On sait très bien que ce n'est pas facile de parler. On estime que 10% seulement des femmes victimes de violences sexuelles finissent par porter plainte. Alors on imagine que vous avez voulu créer un autre contexte pour s'exprimer.
Oui, c'est un autre contexte exactement pour s'exprimer, puis pour se reconnecter à son corps, parce que un des effets des violences sexistes et sexuelles, c'est que on perd en fait l'estime de son corps en quelque sorte, et donc retrouver l'estime de son corps, c'est un moyen aussi de retrouver un peu d'estime de soi. Et cet atelier, il a eu un très gros succès la première fois, et j'espère vraiment qu'on arrivera à le prolonger longtemps, parce que les femmes ont dit que ça avait quand même beaucoup changé leur rapport à elle-même.
C'est aussi peut-être réaffirmer sa féminité ?
C'est réaffirmer sa féminité, c'est surtout ne pas en avoir peur. Mmh. Parce que une des conséquences des violences, c'est qu'on se met à avoir peur d'être trop jolie, alors que c'est bien dommage quand même comme peur. Et puis, surtout, ça n'est pas lié aux violences sexuelles. On sait bien que les violences sexuelles, ça touche tout le monde, quel que soit le physique. Donc, c'est pas une question d'être jolie ou pas jolie. Mais par exemple, une des femmes n'a pas réussi à venir à l'atelier parce qu'elle m'a dit « J'ai fait une crise d'angoisse parce que je m'imaginais revenir dans le métro maquillée. Et pour moi, c'était impossible de revenir jolie dans le métro. » Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose à retrouver de l'ordre de « Oui, on a le droit d'être jolie. » Et surtout, ça n'est pas un danger de l'être.
Ouais. Vous voulez dire que les femmes, du coup, veulent se rendre invisibles après avoir été victimes de violences sexuelles ?
Elles ne veulent plus attirer le regard. Mmh, et donc, évidemment, beaucoup n'arrivent plus du tout à se soigner physiquement après. D'accord. Après, elles ont le droit aussi. Hein. Je ne veux pas non plus que toutes se maquillent, mais je me dis, si c'est un moyen de reprendre confiance en soi, il faut le tenter.
Sandrine Rousseau, qu'est-ce qu'une socio-esthéticienne ?
Eh bien, c'est une esthéticienne qui a une approche un peu particulière. C'est-à-dire, les esthéticiennes classiques, on va arriver, elles vont faire un soin du visage. Là, une socio-esthéticienne, elle commence jamais par le visage, par exemple, parce que c'est un endroit qui peut être particulièrement sensible pour des femmes victimes. Et donc, on va commencer par un soin des mains, tout en discutant, tout en détendant la personne, enfin, en faisant en sorte qu'elle se sente à l'aise. Et une fois qu'on a réussi à masser les mains, à les rendre jolies, eh bien, l'étape d'après, ce sera d'aller vers le visage, les cheveux, enfin vers des parties qui sont plus difficiles pour elles.
On pense aussi à la proximité qu'on a dans ces moments-là, hein, nous les femmes dans la vie, chez le coiffeur, peut-être éventuellement quand on nous masse, quand on fait un soin. Ça favorise du coup les échanges, il y a un lâcher-prise qui se fait quand on s'occupe de nous.
Oui, et ça a même été impressionnant lors du premier atelier qui s'est produit parce que il y a des femmes qui se sont mises à pleurer, par exemple, pendant qu'on leur massait les mains, mais pleurer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'enfin elles lâchaient quelque chose et enfin elles s'autorisaient quelque chose. Donc oui, il y a évidemment une proximité, mais une proximité à la fois bienveillante et quand même respectueuse de ce que souhaite ou de ce qui est prête à supporter la victime.
Les femmes viennent d'elles-mêmes parce qu'elles ont entendu parler de ces ateliers ou bien elles sont dirigées par des psychologues ou des médecins?
Alors en fait, pour participer à ces ateliers, il faut avoir participé au groupe de parole de l'association Parler. Et c'est une fois qu'on a commencé le travail de parole en groupe qu'on va vers la socio-esthétique. Parce que on peut pas y aller comme ça. Enfin, ça peut aussi bouleverser des choses. Hein. Donc c'est bien d'être à l'aise dans un groupe déjà pour pouvoir continuer.
Alors concrètement, comment ça se passe, Sandrine Rousseau? Donc il y a massage des mains, ça vous nous l'avez dit. Ensuite, il y a quoi de la coiffure, du maquillage?
Alors pour l'instant, comme c'était le premier, on n'a pas allé trop sur le maquillage, mais il y a coiffure, shampoing, et puis il y a des femmes qui n'étaient jamais allées chez le coiffeur depuis plusieurs années, même après les violences, et qui là tout à coup se retrouvent avec le visage d'avant. Donc pour certaines, c'est un petit choc, mais un choc salutaire, c'est-à-dire de dire mais voilà la femme que tu étais qui est. C'est pas l'agresseur qui t'a transformé, il faut que tu retrouves quelque part la femme qui est en toi, quoi.
Mais est-ce que les femmes sont seules quand elles sont avec la coiffeuse, avec la socio-esthéticienne?
Ah non, on est toujours en groupe. L'association Parler, le principe, c'est qu'ensemble, on est plus forte et que s'il y en a une qui craque, l'autre est là et tout ça. Et donc, on est toujours en groupe. Et même pendant les soins, on est en groupe, on est autour des personnes. Enfin, voilà, on est dans la même salle, on suit des mêmes... Et il y a toujours quelqu'un qui boit un verre à côté ou qui mange une pâtisserie. Et comme ça, ça permet de ne jamais se sentir seule face au défi qui est présenté. Et c'est très important.
Il y a vraiment une solidarité féminine, on le sent à travers vos propos. On a besoin de cette sororité.
Exactement. Pour moi, c'est un peu la clé du fait de sortir de ces violences et de trouver surtout les bons moyens pour revivre vraiment et pas juste survivre après les violences. C'est que il n'y a pas beaucoup de solidarité dans la société, donc il faut créer des espaces de solidarité vraiment très forts entre les femmes, et c'est ce que l'association Parler essaye de créer.
Les ateliers de socio-esthétique à Lille et l'association Parler, avec les coordonnées que l'on a mis sur francebleu.fr pour se renseigner pour une première approche peut-être.
Et on espère qu'il y aura d'autres ateliers de ce type après, ailleurs en France, hein, Sandrine Rousseau.
Eh bien, j'espère aussi, et je lance vraiment un appel, aidez-nous à les organiser parce que ce sont des beaux moments et des moments de guérison surtout.
Merci beaucoup pour vos mots et très belle journée à vous, Sandrine Rousseau.
Merci, bonne journée à vous.
Au revoir. Au revoir. On joue maintenant, on joue pour le DVD des Bodins. Évidemment, toute la semaine, on va vous l'offrir, ce DVD. Ça s'appelle Grandeur Nature. On sait que vous les aimez, les Bodins. Je vais vous poser une question sur la ville de Lille, hein, là où se déroulent les ateliers dont Sandrine Rousseau vient de nous parler. Comment s'appelle ce quartier de Lille où se trouvent des tours futuristes, la gare TGV Lille Europe, le Grand Palais et un centre commercial? Il a un nom, ce quartier de Lille. Alors, je vous laisse nous appeler au 0810 055 056 pour nous donner la bonne réponse. Le temps, pourquoi pas, de danser un petit peu. Hein. Vous avez reconnu, là,
Rasputin.
Mais oui, avec Boney M sur France Bleu. Allez-y, poussez les mains, profitez-en. Rasputin, c'est maintenant.
Yeah. lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Quelle impression ?
Ah, c'était bien.
De danser sur un morceau qui a été conçu alors que vous ne l'étiez pas vous-même.
Eh bien justement, c'est pour ça que ça me plaît. C'était Rasputin avec Bonnet M sur France Bleu. Pour accueillir Claude, bonjour Claude.
Vous avez été mis en attente.
Ah, elle est très bonne. On n'avait jamais eu celle-là.
Non, Claude, est-ce que... On n'est plus en attente.
Oui, bonjour. Excusez-moi, je ne suis pas arrivé à éteindre le haut-parleur.
Non, mais c'était très drôle. C'est pas grave, on a été mis en attente. Claude, où êtes-vous ? Que faites-vous ?
Ah bah écoutez, je suis sur le chemin du retour. J'ai fait mon circuit commercial, aller voir mes clients. Voilà.
Ah, d'où le message. Si vous avez deux appels en même temps, vous mettez en attente.
Voilà.
Et Claude, il fait beau aujourd'hui en Alsace ?
Ah, il y a un petit peu couvert, hein. Il y a des risques de pluie à mon sens, hein. Et un petit peu de vent.
Aïe, 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 aïe. Bon, ben un DVD des Baudins, ce serait pas mal. Ça éclaircirait l'horizon.
Exactement, oui, ça changerait.
Alors, voilà. Vous connaissez bien la ville de Lille ?
Un petit peu. J'y ai passé de temps en temps des week-ends lorsque j'étais dans le coin là-bas.
D'accord, donc je vous demandais le quartier de Lille où se trouvent des tours futuristes, la gare de TGV Lille-Europe, le Grand Palais, un centre commercial, c'est...
Euralille,
c'est la bonne réponse, Claude. Vous repartez avec le DVD des Baudins.
Voilà, tout à fait. Et un gros coucou à tous les gens du Nord qui sont tellement charmants et gentils.
Ah ça, franchement, ils sont adorables, les gens du Nord. C'est une très belle région.
Eh bien, nous, on dit bonjour à l'Alsace.
Voilà.
Voilà, merci beaucoup.
Allez, bonne route à vous, Claude, et on vous fait un gros bisou.
Merci beaucoup, à vous aussi.
À bientôt. Au revoir, Claude. Presque, c'est le dernier titre d'Alain Souchon. Il est pour vous sur France Bleu, maintenant, à 13h45.
Presque.
À Lille, sur la Grand Place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse, s'est levée, je l'ai perdue. J'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurie, le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index, elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi.
jour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains. Te dire qu'à Lille, sur la grande place, j'avais ton profil de face. Presque moi, ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour.
Alain Souchon, c'était pas presque lui, c'était vraiment lui. Et ça annonce l'arrivée de son album. Ce sera, vous savez quand, Denis ?
Bientôt.
Oui, merci. Vendredi, le 18 octobre, Am 50s va sortir et je suis certaine que vous êtes nombreux à attendre cela avec impatience.
Une heure en France. Denis Farrow, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Bientôt. Allez, des vaches dans un champ, des cases tracées dans un pâturage et des spectateurs. Une photo qui nous a intrigués. C'est ainsi que nous avons découvert le loto-bouze. C'est l'emplacement des bouses des vaches, vous avez bien compris, dans les cases qui décide de celui qui a gagné le loto.
4, 3, 2, 1. Vous pouvez les lâcher. Donc, tant que le top n'est pas donné, ça ne compte pas. Attention, top, à partir de ce moment, le jeu a commencé. N'hésitez pas à les encourager, à les appeler. Hein.
Encourager les vaches. Nous sommes à Semouzy, au sud de Montbeuge, dans le Nord, pour découvrir le loto-bouze qui a ses adeptes dans d'autres régions de France, comme la Saône-et-Loire ou les Hautes-Alpes.
Alors, c'est sérieux. Pour bien comprendre le loto-bouze, c'est à un arbitre de loto-bouze et huissier de justice que nous avons fait appel. Bonjour, maître Frédéric Delval.
Bonjour.
Vous nous expliquez le principe. Combien de cases, combien de vaches, combien de bouses?
Alors, le nombre de cases exactes, là, en tête, je ne l'ai plus. Il y a environ entre 3 et 4 000 cases. Les vaches, vous en avez 4. Donc, enfin, chez nous, hein, à Semouzy, dans le village de Semouzy, donc, je suis dans l'Avesnois. Donc, on les lâche par deux. Les premières 15 secondes ne comptent pas, parce que si elles sont stressées, on ne sait jamais. Ce ne serait pas du jeu. Donc, c'est les premières cases autour d'elles, en fait, ne comptent pas non plus.
D'accord.
Là, elles sont lâchées, et puis moi, j'attends qu'elles font leurs besoins.
Mais maître, est-ce que vous savez d'où ça vient, ce jeu?
Alors, je crois qu'au départ, monsieur le maire de Semouzy a dû voir ce type d'événement en Bretagne.
Mmh.
Et il a adoré ça, et il s'est dit que pour son secteur, au moins, il avait l'événement... à Semouzy, enfin le loto-bouze, ça fait plusieurs années qu'ils le font, et c'est l'événement de Semouzy, quoi. Voilà.
Ça peut durer longtemps, l'auto-bouze. Mmh. Si les vaches ne se soulagent pas, qu'est-ce qui se passe?
Oui, je reste là un bon moment. et les gens restent là, même sous la pluie, hein, parce que vous savez bien qu'il pleut souvent.
Mais non.
Les adeptes, chaque année, même les gagnants, ceux qui ont gagné, bah, ils sont toujours là. Et ils bougent pas, même sous la pluie. Donc, ça peut durer 4 heures, 5
Incroyable.
Heures. Mais à côté de ça, il y a à boire, à manger.
Ah oui,
bon, des activités. Ah, mais oui. Puis, il y a des activités pour les enfants, gratuites. Vous avez une petite brocante. Et puis, l'année prochaine, ils prévoient de faire venir des artisans, des petits producteurs du secteur pour faire un petit marché du terroir. Si
oui, mais on a bien compris effectivement que le maire avait le sens de l'humour, c'est fédérateur, c'est festif, on vient en famille. Alors pardonnez mes questions un petit peu techniques, maître, mais si la bouse tombe entre deux cases, comment on fait?
Alors là, c'est la partie la plus drôle, c'est que c'est à moi de mesurer.
C'est
de mesurer la bouse. Donc c'est là où les gens voient l'huissier d'un autre œil. Et puis bon, ça c'est bien parce qu'au moins ça montre une autre image de l'huissier. Ouais. Donc c'est moi qui mesure et qui détermine le gagnant avec les arbitres.
Et il arrive qu'il y ait des contestations auprès de vous-même de l'arbitre ?
Non, du tout. Parce qu'on est vraiment. Enfin là, à Semouzi, c'est une très belle organisation. C'est quand même 4 ans. C'est du boulot hein, l'association. Pour nous, enfin, on est rodés. Donc, non, il n'y a jamais eu de contestation. Et je suis là pour ça, justement. Parce que les lots sont quand même très intéressants.
Ah oui, on gagne quoi au loto-bouze ?
Alors, le premier lot, c'est 1 500 € en bon d'achat à voyage. Et les gens peuvent choisir, ils ont le choix du voyage. Hein, ils peuvent rajouter ou pas, ils ont le choix. Le deuxième, c'est 1 000 €. Ensuite, c'est 500 € en bon d'achat. Et la dernière vache, c'est 300 €.
Bah, c'est pas mal, dites donc. On a entendu dans le petit extrait qu'on a passé tout à l'heure qu'on pouvait encourager les vaches, vous qui êtes souvent présentes, Matt, même à chaque fois. Est-ce que ça change quelque chose ou pas du tout?
Ça c'est une question technique. Hein.
Le premier autobus, j'ai un monsieur qui s'amusait à enlever son t-shirt rouge et qui faisait taureau, taureau, taureau.
Et alors?
Donc, ça met d'animation, les gens, ça les amuse. Et puis, voilà, c'est un bon moment, quoi.
Mais ça n'a pas marché davantage pour lui?
Non. 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 Non, 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 non. La vache, elle fait là où elle a envie. Hein.
Ah bah,
ça, malheureusement.
Non, elle ne reçoit pas d'ordre.
En tout cas, ça a l'air d'être plaisant, d'être arbitre de l'autobus. On l'a bien entendu avec votre sourire, maître Frédéric Delval.
Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous.
Et puis je voudrais quand même préciser que ça permet aussi aux jeunes agriculteurs du coin de participer, de se montrer et de dynamiser l'Avesnois. Hein, donc ce loto-bouze permet aussi aux petits villages, c'est vraiment un petit village, de financer, d'aider les jeunes, rénover l'église. Et le prochain loto-bouze, c'est le 30 août. Donc moi je programme mes vacances toujours chaque année en fonction.
Donc c'est le 30 août 2020. Parfait. On a noté.
Voilà.
Merci beaucoup. Vous avez bien fait de le souligner. Merci beaucoup, maître. Très belle journée à vous.
Merci. Au revoir.
À bientôt. Always the sun. C'est maintenant dans une heure en France.
Everybody should get the same. How many times have you been told? If you don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun.
On est nombreux dans le studio et on a tous chanté faux. Always the Sun, c'était Les Stranglers sur France Bleu.
Parlez pour vous.
Ah, je savais que vous alliez dire ça. Une heure en France se termine aujourd'hui. Denis, on a commencé au Muséum d'Auxerre avec une bien belle exposition.
Yeti, y es-tu ? Avec des créatures étranges ou imaginaires comme le Daru dans Lyon qui a un cousin dans les Alpes, le Dahu.
Ensuite, on a parlé d'ateliers de socio-esthétique pour des femmes victimes de violences sexuelles.
Parler, toujours en groupe, nous a dit Sandrine Rousseau. Si quelqu'un craque, on peut s'entraider quand on a été victime.
Bon, on a terminé avec un sujet assez ludique.
Oui, on a rencontré en tout cas un huissier très sympathique, arbitre de l'autobouze dans le Nord, avec des questions très techniques vous concernant. Est-ce qu'en encourageant la vache, elle va faire plus de bouse?
Mais c'était une question intéressante, je suis désolée. Bon, on revient demain, Denis.
Demain, on va parler de qualité de l'air en Alsace, d'Octobre Rose en Dordogne et d'un festival en Savoie qui veut nous aider à mieux comprendre le monde.
C'est parfait, à demain.